Ray Lalonde qui s'amène. Bonjour, Ray.
Bonjour, Paul.
Alors, évidemment, on parlait tout à l'heure avec Martin Lemay, dernière tranche aujourd'hui du Masters, le tournoi des maîtres à Augusta, en Géorgie. Habituellement, c'est dans le temps de Pâques, mais évidemment, pandémie oblige, on se retrouve en novembre. Et tu veux nous parler, justement, de ce tournoi qui se préoccupe plus du facteur de son exclusivité, de son rayonnement, son prestige, que du facteur des finances.
Tout à fait, Paul. C'est vraiment le seul événement sportif sur la planète qui est littéralement concentré sur l'image, sur la marque, sur qu'est-ce qui est véhiculé comme message, plutôt que d'essayer d'optimiser les revenus. Alors ça, c'est très rare. Puis c'est pas une question de il y a quelques années, là. Ça fait 65 ans que c'est comme ça. Ça fait 56 ans qu'ils signent des ententes d'une année à la fois avec CBS Sports, qui sont littéralement, Paul, en anglais, on appelle ça des « gentlemen's agreement ». On serre la main, on s'entend, pardon, qu'ils vont diffuser. Il y a 4 minutes de publicité sur 60 seulement. C'est les mêmes 3 partenaires majeurs, là, AT&T, IBM et Mercedes. Le grand partenaire international, c'est Rolex. On ne cherche pas des commanditaires de plus. Les prix sont raisonnables lorsqu'on achète un billet au vrai prix. Sur le marché secondaire, là, c'est une autre histoire. Paul, le menu des concessions, les vêtements qui sont achetés en grande quantité sur le site, généralement par les spectateurs, visiteurs, sont raisonnables comme prix. Finalement, ce qu'on recherche, c'est d'être capable de payer la production. Alors, CBS reçoit 10 millions de dollars des 3 grands partenaires commerciaux américains. Et avec ça, paye la production. Puis pendant ce temps-là, le Master se dit, bon, nous, on n'est pas intéressé à l'argent télé. Nous, ce qu'on veut, c'est contrôler de A à Z. Fait que hier, je regardais le Masters, comme toi, Paul, puis à un moment donné, à CBS, tu vois le président, le chairman, Fred Ripley, d'Augusta National, qui vient faire un peu son message public. C'est comme si c'était une pub pour lui, pour passer le message que comment c'était important le Masters dans le rôle du golf, dans le rôle de leader mondial, comme tournoi le plus prestigieux qui a lieu à chaque année, puis comment c'était intéressant et intriguant cette année de jouer en novembre. Mon point là-dedans, c'est que si eux autres décidaient d'aller sur le marché puis de vendre les droits télé à Fox, qui d'ailleurs paye 93 millions de dollars US pour les droits annuels du US Open, ben tu sais que le Masters est plus prestigieux, ils pourraient doubler la mise facilement. Mais ils le font pas parce qu'ils sont tout à fait satisfaits de garder l'exclusivité, de garder le contrôle et de créer, Paul, ce qu'on appelle la rareté.
Oui.
C'est tellement aspirant, c'est tellement ambitieux, c'est tellement mystérieux le Masters, Augusta National, que puisqu'on ne sait pas c'est quoi, on est porté à vouloir le valoriser davantage.
Alors,
donc,
tu vois,
c'est une stratégie qui fonctionne très bien.
Moi, je fais un parallèle, et c'est pour ça que j'aime tellement le football, comme toi d'ailleurs, universitaire américain. Quand arrive la période des fêtes et les fameux bowls, oui. Je rêvais depuis que j'étais petit, d'aller au Rose Bowl. Mm-hmm. Je voyais des images le 1er janvier. Il faisait toujours beau et chaud. Il
y avait
la parade le matin. Ben, écoute, Ray, je me suis payé ça il y a à peu près 5 ans. Et ça tombait bien, c'était le 100e Rose Bowl et la 125e parade. Et puis, je vais te dire une chose, ça ne m'a pas coûté une fortune.
Non.
J'ai acheté des billets à prix raisonnable pour être devant la parade et ensuite des billets à prix raisonnable pour le match de football.
Ouais.
C'est la tradition.
La tradition.
Le voilà, branding.
Exact.
Et on ne m'a pas exploité comme si j'avais acheté un billet au Super Bowl.
Oui, puis ce qui reste avec toi aujourd'hui, c'est le souvenir
d'un
événement impérissable qui, dans ta tête, était quelque chose qui dépassait l'imaginaire. Puis quand tu l'as vu de tes yeux,
oui.
Ben, ça a effectivement rencontré les attentes.
Alors, nous allons parler d'une femme, mesdames, messieurs, qui a fait éclater un plafond de verre, Kim Eng. Ça s'appelle NG. Elle est devenue la directrice générale, la première femme du baseball majeur avec les Marlins de la Floride.
Oui, Paul, Kim Eng, elle a 30 ans d'expérience avec les Yankees au moment où Derek Jeter jouait, qui est maintenant le propriétaire, si on veut, minoritaire des Marlins de Miami, mais aussi avec les Dodgers. Alors, son portfolio, son parcours, son CV est composé de des postes exécutifs comme adjointe aux dirigeants, là, bien sûr, mais ça inclut 3 séries mondiales puis 8 participations aux séries. Kim Eng, ce qu'elle a accompli cette semaine en étant nommée directeur général des Marlins, c'est qu'elle est devenue la première femme à avoir un rôle de décision. Un rôle, pas juste un rôle de leadership dans l'organisation, là, mais comme personne qui décide de tout sur le côté baseball. Les femmes sont acceptées. On leur donne de plus en plus de rôles de leadership. Je pense à Kim Pegula, qui est la propriétaire des Sabres de Buffalo et des Bills de Buffalo. Mais c'est parce que son mari a acheté l'équipe.
Et oublie pas, Ray, que dans mon équipe, les 49ers, nous avons une entraîneur.
Absolument.
Une femme qui fait partie, un poste très important d'ailleurs. Je pense que c'est pour les receveurs de passes.
Oui, mais les entraîneurs féminins, Paul, tu te rappelles, on a parlé avant le Super Bowl l'année dernière, lorsque les 49ers ont évolué dans ce match-là. Il y en a de plus en plus. Il y en a une quinzaine dans la NBA, il y en a une dizaine dans la NFL. Ça, c'est de plus en plus fréquent. Mais ce ne sont pas encore les femmes derrière le banc qui prennent les décisions.
Ah!
Alors là, la différence, c'est
ce qu'on appelle des head coach en anglais.
Des
entraîneurs.
C'est un peu le même principe, les femmes, que les minorités, Paul. Les clubs, puis les propriétaires de clubs, sont trop conservateurs. Fait que, ils ont peur de donner un emploi de décision à une femme parce qu'ils se disent « Ouais, mais elle n'a pas joué. Elle n'a pas évolué. Elle ne connaît pas l'intérieur là, de ce qui se passe derrière la scène. » Mais c'est sûr que c'est une erreur flagrante. Mais on fait tomber des barrières. Là. On avance dans la bonne direction. La première femme, à mon avis, qui va avoir un poste de coach, head coach, Paul, c'est Becky Hammon des Spurs de San Antonio.
Ouais.
Ça fait depuis 2014 qu'elle est l'adjointe à Greg Popovich. Puis elle a en plus eu quelques entretiens déjà avec d'autres équipes. Fait qu'on n'est pas loin d'une femme entraîneur-chef dans la NBA. Et bientôt, la Ligue nationale de hockey va suivre aussi.
Oui, parce qu'on a l'impression, et Martin est avec nous aussi, on a l'impression que la Ligue nationale de hockey, c'est peut-être la Ligue qui est le plus en retard.
Bien, en retard, oui, mais le football est en retard. Tout le monde est en retard à ce niveau-là, Paul. Faut accepter. C'est comme la NFL, Paul, qui met des règles en place pour forcer les clubs à interviewer des candidats de race minoritaire.
Oui, mais Ray, on n'en a pas de femmes dans la Ligue nationale de hockey aspirantes.
On n'a pas de femmes aspirantes, mais on a des femmes qui commencent à prendre des rôles. Par exemple, Hayley Wickenheiser avec les Maple Leafs de Toronto. Et puis, le Kraken de Seattle a embauché une femme dans un poste de directrice du personnel. Fait qu'on avance, Paul. On commence à prendre l'environnement hockey. Ça, c'est vraiment important.
Au hockey, je pense qu'on va avoir un dirigeant ou une dirigeante plus rapidement qu'une entraîneur, comme tu parles au basket.
Ouais, et moi, je suis d'accord avec
le sport qui était le plus en retard était le baseball. Et on a donné un méchant coup de barre avec cette dame-là qui, de carrière, a toujours travaillé dans le monde du sport. Elle est sortie de l'université et elle s'est ramassée avec les White Sox de Chicago pour monter les budgets, les contrats. Là, le joueur va en arbitrage, veut 5 millions, puis l'équipe veut donner 3 millions. C'est elle qui montait
les
projets.
Mais ça, des femmes comme ça, Martin, il y en a partout. Honnêtement, là, je ne veux pas minimiser.
Non, c'est des avocats. Mais
des femmes qui dirigent des équipes au niveau administratif, il y en a plein.
Ben oui.
Puis la première qui m'est venue en tête quand j'ai pensé à Kim Heng cette semaine, c'est Amy Trask. Amy Trask, en 1997, a été nommée la PDG des Raiders d'Oakland, Paul.
Oui.
1997, ça fait 23 ans, là.
C'était à l'époque d'Al Davis, ça.
Ben oui. Alors, tu sais, il ne faut pas non plus penser que c'est tout arrivé cette semaine. Mais cette semaine, c'était important parce qu'on confiait l'avenir du club, littéralement sur le terrain, à une femme.
Ce qui est le plus important, c'est qu'on l'a fait pour ses compétences.
Bien sûr.
Exactement. On serait trop insisté. Écoutez, nous avons un développement important du côté du président américain. Je suis obligé de vous interrompre. Ray, merci. On se reparle la semaine prochaine.